Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTL. C'est parti pour Confidentiel, une heure pour découvrir la face cachée d'une personnalité. Une star dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres, voire absolument tragiques. C'était il y a exactement 60 ans, et ça reste un des sujets les plus brûlants du 21e siècle, l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Il est mort très jeune, à 46 ans, dans des circonstances dramatiques que tout le monde connaît, mais qui font encore couler beaucoup d'encre. On vous révèle, minute par minute, les détails de ce dernier voyage fatidique à Dallas, la place qu'a eue Jackie Kennedy dans ce moment terrible, et comment le service secret a pu faillir dans sa mission de protéger l'homme le plus puissant de la planète. Confidentiel John Fitzgerald Kennedy, c'est tout de suite. Et juste après, je serai avec Quentin Darmon, journaliste, grand spécialiste de JFK et auteur du récit qui suit. On est le lundi 25 novembre 1963 à Washington. Il fait beau, le soleil illumine la capitale et les rues sont bondées. Pourquoi ? Parce que des centaines de milliers d'Américains sont là, dans le calme et dans la tristesse, pour essayer de voir passer le long cortège funèbre. L'Amérique enterre son 35e président, John Fitzgerald Kennedy. On a appris sa mort 3 jours plus tôt à Dallas. Ça a provoqué bien sûr une onde de choc immense à l'échelle planétaire. Pour ses obsèques hors normes, des dizaines de chefs d'État ont fait le déplacement, dont le président de la République française, Charles de Gaulle. What a tragedy! Ces mots du général au secrétaire d'État, Dean Rusk, qui l'a accueilli à la descente de son avion la veille, ont aussi marqué l'histoire. Quand il a appris la nouvelle, de Gaulle a immédiatement envoyé un télégramme à la première dame américaine, Jackie Kennedy. « L'immense chagrin qui vient de vous frapper nous émeut, ma femme et moi, jusqu'au fond du cœur. Le président Kennedy ne sera jamais oublié. » Il faut dire que les Kennedy ont fait sensation quand ils sont venus en visite officielle à Paris. C'était en 1961, à la fin du mois de mai. Il y avait des dizaines de milliers de Français qui les attendaient à l'aéroport d'Orly et sur les Champs-Élysées. Dans l'Hexagone, on se souvient d'un couple jeune, moderne et glamour. Comme souvent, le charme avait opéré. Les origines françaises de Jackie, de son vrai nom Jacqueline Bouvier, n'y sont évidemment pas pour rien. De Gaulle s'en était littéralement extasié. Madame Kennedy connaît mieux l'histoire de France que la plupart des Françaises. La star du couple présidentiel, c'est elle. Son mari le sait. Quand John se présente, d'ailleurs, avec son humour habituel, il dit qu'il est le type qui accompagne Jackie Kennedy. Depuis la grande tournée européenne des Kennedy, les deux présidents, français et américains, se vouent une estime particulière. Je rappelle qu'on est au plus fort de la guerre froide. Les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique sont extrêmement vives. 2 mois après la visite parisienne des Kennedy, en août 61, un mur en béton de 43 km est construit à Berlin. Il sépare désormais physiquement le bloc occidental du bloc communiste. Au-delà de la capitale allemande, c'est le monde qui est scindé en deux. Certains reprochent alors au jeune président américain, élu quelques mois auparavant, son manque de fermeté face à cette provocation. Mais près d'un an plus tard, il va avoir l'occasion de montrer sa pugnacité. On est en octobre 62, depuis la Maison-Blanche. Dans une allocution à la télévision, John Kennedy annonce le blocus naval de l'île de Cuba. Elle est située à quelques centaines de kilomètres des côtes américaines. Des missiles soviétiques y sont installés depuis plusieurs jours. Ils sont pointés vers les États-Unis. La situation est inacceptable pour le président. Il n'hésite pas à menacer les Russes de représailles militaires si les fusées ne sont pas démantelées. Le commandement américain est en alerte. Des vaisseaux russes font route vers Cuba. Les deux flottes se font face. Le monde est au bord de l'apocalypse nucléaire. Mais au dernier moment, les navires soviétiques font demi-tour. C'est une victoire pour Kennedy. Il a réussi à faire reculer l'ennemi communiste. Cette crise des missiles marque un véritable tournant dans la politique étrangère de JFK. L'année 1963 est celle de l'apaisement avec l'URSS. La signature du traité de Moscou, la création du téléphone rouge entre la Maison-Blanche et le Kremlin, la volonté de discuter et négocier avec Fidel Castro sont autant de signes qui tendent à démontrer que Kennedy a désormais opté pour la détente. Le 10 juin, face à l'Université américaine de Washington, le président Kennedy dénonce l'absurdité de la course à l'armement nucléaire et il montre sa volonté de réexaminer l'attitude de l'Amérique envers l'Union soviétique.
Nous devons nous assurer que les États-Unis et ses alliés, ainsi que l'Union soviétique et ses alliés, aient un réel intérêt commun pour une véritable paix durable et pour stopper la course à l'armement. Accepter ces termes est dans l'intérêt de l'Union soviétique ainsi que du nôtre. Alors nous ne soyons pas aveuglés par nos différences et portons toute notre attention sur notre intérêt commun. N'oublions pas que notre lien le plus basique est que nous vivons tous sur cette même petite planète. Nous respirons tous le même air. Nous souhaitons tous un bel avenir pour nos enfants. Et nous sommes tous mortels.
John Kennedy aborde donc sereinement la conquête de son deuxième mandat. On est en 1963. Les sondages le donnent déjà vainqueur face à Barry Goldwater, qui est à ce moment-là son rival républicain le plus probable. Mais vous savez comment fonctionne l'élection américaine. Le président est élu par un collège. Ce collège est constitué de grands électeurs qui sont eux-mêmes élus au suffrage universel dans chaque État. Pour que Kennedy remporte l'élection, il a absolument besoin d'arriver à nouveau en tête dans certains États clés, et parmi eux, le Texas. Le voyage officiel à Dallas se rapproche et l'enjeu pour le président est colossal. Le 22 novembre 1963, il est un peu plus de 8h30. Dans la suite 850, de l'hôtel Texas de Fort Worth, le président Kennedy s'apprête à descendre prendre son petit déjeuner en compagnie de 2000 convives. La nuit a été courte, tournée électorale oblige. Les Kennedy sont arrivés de Houston tard dans la soirée et ils doivent repartir en fin de matinée pour la dernière étape de ce voyage texan, Dallas. Jackie a accepté d'accompagner son mari parce qu'elle sait à quel point sa présence peut séduire les foules les plus réticentes. Et John, lui, sait mieux que personne à quel point ce déplacement est difficile pour elle. Le couple a perdu son fils 4 mois plus tôt, le 9 août. Patrick Bouvier Kennedy est décédé 2 jours après une naissance prématurée. Ce drame, terrible, a toutefois resserré les liens du couple, par ailleurs déjà mis à l'épreuve par les infidélités répétées du président. Les aventures extra-conjugales de JFK ne sont un secret pour personne à Washington. Dans cette salle du petit-déjeuner à Fort Worth, la magie opère à nouveau. L'humour de John et l'élégance de Jackie. La salle est conquise. Tous les yeux sont rivés vers la First Lady. Elle est habillée ce jour-là d'un tailleur Chanel rose bonbon qui fait sensation. John la regarde beaucoup. Il est attentif à ses moindres gestes et il n'hésite pas à lui témoigner des marques d'affection en public. Devant l'hôtel, les centaines de Texans qui ont bravé la pluie pour espérer recevoir un sourire ou même, pourquoi pas, une poignée de main, est à nouveau un signe rassurant pour les Kennedy. Le Secret Service, la garde rapprochée du président, reste tout de même vigilant. Avant leur départ, en effet, les conseillers du président à Washington étaient plutôt sceptiques. Ils avaient prévenu. Le Texas sera un déplacement très difficile. La politique menée par Kennedy depuis 3 ans, notamment en faveur des droits civiques des Afro-Américains, passe très mal dans cet État ultra-conservateur qu'est le Texas, qui sépare encore les Blancs et les Noirs. Mais jusqu'à présent, tout se passe comme dans un rêve. Reste à savoir si l'accueil sera aussi chaleureux dans la ville qu'on surnomme la Cité de la Haine, Dallas. Toujours le 22 novembre 1963, 11h28. Dallas, la ville du pétrole, des grandes fortunes texanes, mais aussi d'une extrême droite des plus radicales. Un mois plus tôt, dans cette même ville, l'ambassadeur américain auprès de l'ONU, Adlai Stevenson, avait été violemment pris à partie et avait même reçu des crachats. C'est là aussi que la John Birch Society, une association politique raciste, obsédée par la menace communiste, s'est établie. Elle fait circuler des tracts depuis plusieurs jours, où John Kennedy apparaît de face et de profil à la manière des affiches de l'époque du Far West. On peut lire sur ces tracts « Recherché pour trahison ». Ce matin du 22 novembre, un encart bordé de noir occupe toute la page 14 du Dallas Morning News avec ce titre. Bienvenue, Monsieur Kennedy. C'est évidemment une grande provocation de la part des signataires de cette tribune. Ils évitent soigneusement d'appeler JFK président Kennedy. On va au pays des dingues. Et oui, ce sont les mots que John glisse à sa femme au moment où Air Force One se pose à l'aéroport Love Field de Dallas. Il est 11h40. Les nuages du début de la matinée ont disparu. Le ciel est totalement dégagé et un grand soleil illumine désormais la ville. Sur le tarmac, des milliers de curieux sont venus applaudir le président et son épouse. C'est une nouvelle belle surprise. On dirait que les signes d'hostilité sont quasi inexistants, hormis un drapeau sudiste voulant probablement rappeler au président qu'il n'est pas le bienvenu à Dallas, mais c'est tout. Le vice-président, Lyndon Johnson, et sa femme, Lady Bird, qui sont arrivés quelques minutes plus tôt, attendent le couple présidentiel au pied de l'avion. Ils sont fiers de leur Texas natal. Après avoir salué les quelques dizaines d'officiels présents pour l'accueillir, John décide d'aller au contact de la foule. Comme depuis deux jours, Jackie reste près de lui. Elle tient dans ses mains un bouquet de roses rouges. Les sourires sont sur tous les visages. On peut dire qu'à cette heure-ci, et vu l'ambiance, c'est une très belle journée qui s'annonce. Midi. Le cortège présidentiel fait route vers le centre-ville de Dallas. Il est suivi de près par des dizaines de voitures de police et par des motards. Le président a insisté pour que le Secret Service enlève le toit de sa limousine. Il veut être au plus près de la foule. C'est ça qu'il dit pour justifier cette demande, pourtant pas du tout recommandée par les services de sécurité. JFK est assis tout à l'arrière du véhicule, avec Jackie à sa gauche. Devant eux, il y a le gouverneur du Texas, John Connolly, et sa femme, Nelly. Le véhicule est conduit par l'agent Bill Greer. À sa droite, Roy Kellerman, le chef du Secret Service. Voilà la voiture présidentielle. Plus le cortège s'enfonce dans le cœur de Dallas, plus la foule est dense. Et l'accueil est toujours aussi chaleureux. Il y a comme quelque chose de magique dans l'air. La présence de Jackie y est certainement pour beaucoup. Ils sont des milliers, amassés tout au long du parcours, qui doit s'achever aux alentours de 12h45 au Trade Mart, un grand centre commercial. Le président y est attendu pour déjeuner et pour rencontrer les grands acteurs économiques de la ville. Ça, c'est ce qui est prévu. 12h29, le cortège s'apprête à rejoindre l'autoroute pour filer vers le Trade Mart. On peut dire que le défilé est un succès incontestable. Les sourires à bord de la limousine en témoignent. Après cette visite, John se dit qu'il pourra très probablement compter sur le Texas et sur Dallas pour l'élection de 64 l'année d'après. Alors que la voiture s'apprête à traverser une petite place du centre-ville, Dealey Plaza, Nelly Connelly, la femme du gouverneur du Texas, se tourne vers le président et lui dit « Vous ne pourrez pas dire que Dallas ne vous aime pas. » Ce à quoi Kennedy répond « Non, c'est sûr. » Abraham Zapruder n'aurait raté la venue du président Kennedy à Dallas pour rien au monde. C'est un fabricant de vêtements pour femmes. Il est démocrate. Il a voté avec enthousiasme pour JFK en novembre 59. C'est donc tout naturellement qu'il s'est posté à la toute fin du parcours sur Dealey Plaza, pas très loin de ses bureaux. Son assistante a insisté pour qu'il prenne avec lui sa petite caméra personnelle, une Belle et Howell 8 mm. Abraham l'a achetée en 62. Elle est toute récente. Elle est à la pointe de l'innovation pour l'époque. Lorsqu'il voit arriver le cortège, Zapruder actionne sa caméra, bien sûr, et commence à filmer. Sans savoir, à ce moment-là, que ses images et son nom vont entrer à tout jamais dans l'histoire. Après Houston Street, la limousine doit tourner à gauche, sur Elm Street. Le virage est serré. La limousine du président Kennedy ralentit alors jusqu'à 15 km/h. Elle passe juste devant un immeuble en briques rouges de 6 étages, le Texas School Book Depository. C'est un dépôt de livres scolaires qui surplombe la place. On est donc sur la fin du trajet présidentiel. Quelques mètres après ce virage, d'un coup, Jackie ne comprend pas pourquoi John a ses mains sur sa gorge. Il a l'air de souffrir. Deux détonations ont retenti. On aurait dit des pétards ou des ratés de moteur. Quelque chose ne va pas à bord de la limousine. John Connolly pousse un cri de douleur et il s'effondre. La limousine ralentit encore. Il est 12h30, ce 22 novembre 63, quand le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, reçoit une balle en pleine tête. La foule présente aux abords de Dealey Plaza n'en croit pas ses yeux. Jackie tente de s'extraire de la voiture par le capot arrière, mais elle est rapidement rejointe et repoussée dans le véhicule par son garde du corps, Clint Hill. Le cortège file désormais à toute allure vers l'hôpital Parkland, qui se trouve à seulement quelques kilomètres. La panique se répand, toute la ville est désormais en alerte. Même si sur le trajet, le cortège reçoit toujours les acclamations des spectateurs, qui ne savent pas encore ce qu'il vient de se produire. Rapidement mis au courant, les radios et les télévisions du monde entier interrompent leur programme pour annoncer la nouvelle.
Oui, en effet, nous venons d'apprendre à l'instant que 3 coups de feu ont été tirés à Dallas, dans le Texas où se trouve le président Kennedy. Sur le président Kennedy, il aurait été blessé, ainsi que le gouverneur du Texas. Il traversait Dallas en voiture découverte. Selon un photographe de la suite du président Kennedy, le président Kennedy saignait à la tête. Je vous demande de me rappeler dans quelques instants et puis je vous donnerai la suite des informations que j'aurais pu avoir.
En quelques minutes, la limousine du président arrive à l'hôpital. Elle est suivie de dizaines de voitures de police et de journalistes. Sur le parking devant l'entrée, Clint Hill doit insister pour que Jackie lâche le corps de son mari qui gît inconscient sur ses genoux. Elle est couverte de sang et elle est en état de choc. Elle finit par laisser les médecins s'occuper du président. Kennedy et Connolly, les deux touchés de la limousine, sont transportés sur des brancards dans deux salles d'urgence distinctes, Trauma Room 1 et Trauma Room 2. Les 5 médecins qui s'occupent de Connolly, le gouverneur du Texas, sont optimistes. Ses blessures sont sévères, mais il va s'en tirer. En revanche, les premières constatations sur le corps de JFK sont effrayantes. Il lui manque une partie du crâne qui a été perforée par une balle. Les médecins l'intubent, ils tentent une trachéotomie et ils pratiquent un massage cardiaque. Un prêtre catholique arrive sur place à la demande de Jackie. Le père Oscar Hubert administre les derniers sacrements. Il est 13h quand le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est déclaré mort. L'annonce est officielle une demi-heure plus tard et elle fait instantanément le tour du monde.
Bulletin spécial d'information. Ainsi donc, nos craintes étaient justifiées. Tout le laissait présager. Voici la nouvelle de la soirée. Le président Kennedy est mort. C'est la radio américaine qui vient de l'annoncer il y a quelques instants dans les termes que voici.
Malcolm Kilduff has just announced that President Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time, which is about 35 minutes ago.
Vous avez entendu et vous avez retenu l'essentiel de cette annonce de la radio américaine. Kennedy is died, c'est-à-dire Kennedy est mort.
Le corps décédé du président Kennedy est enveloppé dans deux draps et il est déposé dans un cercueil de bronze scellé. Le Secret Service exige de rapatrier le corps du président à Washington pour pratiquer l'autopsie, malgré la protestation du personnel médical qui est sur place à Dallas. De son côté, le vice-président des États-Unis, Lyndon Johnson, quitte rapidement l'hôpital Parkland pour être mis en sécurité. Il est automatiquement désigné par la Constitution pour prendre la place de John Kennedy à la tête du pays. À 14h38, le 22 novembre, Johnson prête serment à bord de l'avion présidentiel Air Force One, juste avant qu'il décolle. À ses côtés, Jackie observe, médusé, ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. À 14h47, Air Force One quitte Dallas, direction Washington. Pendant tout le vol, Jackie reste à l'arrière de la cabine, juste à côté du cercueil de son mari. La scène est surréaliste. Entre-temps, la police de Dallas n'a pas perdu une seconde. Qui a tiré sur le président Kennedy? Déjà, une majorité de témoins présents sur Dealey Plaza atteste immédiatement que les coups de feu ont été tirés depuis l'immeuble en briques rouges. Souvenez-vous, le dépôt de livres. Alors à 12h37, seulement 7 minutes après les coups de feu, le bâtiment commence à être bouclé. Les policiers s'intéressent particulièrement au 5e étage. Ils finissent par y trouver, caché sous une pile de cartons, un fusil à lunettes et 3 douilles. Tous les employés du dépôt de livres sont interrogés. On veut connaître à la seconde près leur emploi du temps. On veut savoir ce qu'ils faisaient au moment des tirs. Un seul salarié manque à l'appel. Un jeune homme de 24 ans. Il a été embauché récemment. Son nom, Lee Harvey Oswald. À 13h50, on vient d'apprendre officiellement que le président Kennedy est mort. Un homme est arrêté. Son comportement avait alerté un marchand de chaussures, John Calvin Brewer, qu'il avait vu se cacher des voitures de police qui passaient. Il avait alors décidé de le suivre. Quand il a vu l'individu entrer dans un cinéma sans payer sa place, Brewer avait alors alerté les autorités. À ce moment-là, tous les services de police de la ville sont non seulement à la recherche de l'assassin du président Kennedy, mais pas que. Ils sont aussi à la recherche de l'assassin d'un officier de police, l'agent Tippit, qui a été abattu peu après 13 heures de plusieurs balles dans une rue calme d'un quartier résidentiel. Dans l'après-midi, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Le chef de la police de Dallas, Jesse Curry, n'en croit pas ses oreilles quand l'un de ses adjoints lui apprend que l'homme qu'il recherche, Lee Harvey Oswald, celui, je vous rappelle, qui manquait à l'appel au dépôt de livres, est l'homme qui a été arrêté dans le cinéma. Il se trouve que les éléments à charge contre lui se multiplient. Un collègue d'Oswald atteste qu'il l'a conduit le matin pour se rendre au dépôt de livres et que ce dernier avait avec lui un grand sac en papier. Le jeune homme aurait expliqué qu'il s'agissait de tringles à rideaux. Mais aucun objet de la sorte n'a été retrouvé dans le bâtiment. En revanche, ce sont bien les empreintes d'Oswald qui sont identifiées sur le fusil retrouvé au cinquième étage de l'immeuble. D'ailleurs, les policiers en sont sûrs. Oswald en est bien le propriétaire, malgré ce qu'il prétend en garde à vue. Il l'a acheté par correspondance, sous un faux nom, quelques mois auparavant, tout comme un revolver qu'il portait lors de son arrestation. D'autre part, le suspect n'a aucun alibi. Personne ne sait où il était ni ce qu'il faisait à 12h30, au moment des coups de feu. Voilà la conviction des enquêteurs qui se forge au fil des heures. Muni de son fusil, Lee Oswald a tiré sur le cortège, puis il a rapidement quitté les lieux. Il est retourné dans le petit appartement meublé qu'il loue, il a pris son revolver, un blouson, puis il est reparti toujours à pied. C'est alors qu'il a tué l'officier Tippit, ce dernier voulant probablement l'interpeller, car il correspondait au signalement émis quelques minutes avant par la radio de la police. Voilà le scénario.
Full name is Lee Harvey Oswald.
Tard dans la soirée de ce fameux 22 novembre, la nouvelle de l'arrestation d'un suspect potentiel s'est répandue. Le commissariat de Dallas est envahi par la presse du monde entier. Le procureur, Henry Wade, annonce l'inculpation d'Oswald, non seulement pour l'assassinat de l'officier Tippit, mais également pour celui du président Kennedy. Le 24 novembre, ça fait presque deux jours que Lee Harvey Oswald est en garde à vue. Les enquêteurs disposent d'éléments accablants, mais le suspect s'entête et il réfute toutes les charges qui pèsent contre lui. « J'en ai fait condamner pour moins que ça », lance le procureur Wade, avant d'affirmer aux journalistes qu'il souhaite qu'il finisse sur la chaise électrique. La priorité, c'est désormais de mettre Oswald en lieu sûr. Car la confusion la plus totale a emparé le commissariat de Dallas. Les allées et venues de la presse, des télévisions et des radios ont transformé le bâtiment en vrai hall de gare. L'heure des premiers interrogatoires est terminée. Oswald doit désormais être transféré à la prison du comté. En fin de matinée, ce 24 novembre, il est conduit au sous-sol du commissariat de Dallas. Sous les flashs des appareils photo et devant les caméras, il doit rejoindre une voiture banalisée, tandis qu'un fourgon blindé doit faire diversion. Il n'a plus que quelques mètres à faire, et pourtant... Un homme surgit de la foule et tire à bout portant sur Oswald. Il perd presque immédiatement connaissance. La scène a été retransmise en direct. C'est une première dans l'histoire de la télévision. Oswald est transporté d'urgence à l'hôpital Parkland, le même que le président. La balle qu'il a reçue dans l'abdomen lui a transpercé le pancréas et a sectionné au passage l'aorte et la veine cave. Les médecins annoncent son décès à 13h07, soit 48 heures exactement, après le décès du président Kennedy dans ce même hôpital. L'assassin d'Oswald a rapidement été maîtrisé et arrêté. Les policiers le connaissent bien il s'agit de Jack Ruby, propriétaire de plusieurs cabarets et boîtes de nuit. Pour expliquer son geste, Ruby déclare qu'il a agi pour venger John Kennedy et pour éviter à sa femme Jackie la douleur d'un procès. Il n'y aura donc jamais de procès pour Lee Harvey Oswald, qui est mort en emportant ses secrets. Le 25 novembre 1963, à Washington, un cercueil recouvert du drapeau américain est transporté du Capitole jusqu'à la Maison Blanche. Un peu plus de 3 km, pendant lesquels les Américains peuvent dire un dernier adieu à leur président. Un cheval noir, scellé, sans cavalier, avec dans les étriers des bottes retournées, suit le corps de JFK. Il s'appelle Black Jack, en l'honneur d'un héros de la Première Guerre mondiale, le général John Joseph Pershing. C'est une idée de Jackie, tout comme la grande marche des souverains étrangers dans la capitale, dominée par la haute silhouette du général de Gaulle. Les responsables militaires et civils avaient dit « Tout ce que Madame Kennedy voudra, nous le ferons ». Son beau-frère, Robert Kennedy, la soutient dans l'épreuve. Jackie reste digne, malgré la tristesse. Et puis cette image terriblement poignante, le salut militaire du petit John Kennedy Jr. au cercueil de son père, le jour même de ses 3 ans. Après une messe en la cathédrale Saint-Matthieu, le président est inhumé à 15h13 au cimetière national d'Arlington. Là, une flamme éternelle brûlant son souvenir. À plusieurs centaines de kilomètres de là, 2 autres enterrements ont lieu. Lee Harvey Oswald est inhumé en petit comité, sans service religieux, à l'abri des regards et des journalistes. Au Laurel Land Memorial Park de Dallas, l'officier J.D. Tippit est lui enterré dans le carré des personnes mortes au service de la communauté. Quelques jours passent. L'Amérique est groggy. Plus qu'un président, c'est son insouciance qu'elle vient de perdre. Son leader si charismatique, qui avait suscité tant d'espoir, vient d'être foudroyé en plein vol. Au-delà des États-Unis, c'est l'incompréhension qui demeure. Partout, on évoque une grande conspiration. Comment l'homme le plus puissant de la planète a pu être abattu par un petit loser en mal de reconnaissance ? Pour mettre un terme aux suspicions qui fleurissent au sein de l'opinion publique, le nouveau président Lyndon Johnson veut l'ouverture d'une grande enquête pour faire toute la lumière sur les événements de Dallas. La commission présidentielle sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy est ainsi créée. Elle portera le nom de commission Warren, du nom d'Earl Warren, le chef de la Cour suprême des États-Unis. Son rapport final est rendu 10 mois plus tard, en septembre 64. Ses conclusions sont sans appel. Lee Harvey Oswald a tiré 3 fois sur le cortège présidentiel. La 3e balle, qui a touché Kennedy à la tête, lui a été fatale. Oswald a agi seul, sans aucune aide extérieure. Son mobile, il est flou, mais il est certainement d'ordre politique. Oswald avait vécu pendant près de 3 ans en Union soviétique avant de rentrer aux États-Unis et d'accomplir son geste. D'autre part, Jack Ruby a lui aussi agi seul et n'a bénéficié d'aucune complicité pour tuer Lee Oswald. Ainsi est expliqué le crime du siècle au monde entier. Par ailleurs, le Secret Service, la police de Dallas ainsi que le FBI font figure de responsables. Ils ont failli dans leur mission prioritaire, celle de protéger le président des États-Unis.